France Culture.
À voix nue, Caroline Brouet.
Éric Fotorino. Écrivain d'abord. Égaré ou s'oubliant dans le journalisme. Et d'abord écrivain cycliste.
Premier épisode, une mère et une sœur qui manquent depuis toute la vie. Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour Caroline Brouet.
Vous avez dit écrivain d'abord. Moi, j'avais mis journaliste. Journaliste, vous l'êtes, de presse écrite, parce que vous l'êtes encore aujourd'hui. Pendant 25 ans, vous l'avez été au quotidien Le Monde. Vous avez été rédacteur, chroniqueur, grand reporter, puis directeur, président du groupe de 2007 à 2011, avant de fonder et de diriger de nombreuses revues et un journal hebdomadaire, le 1 Hebdo, les revues America, Zadig, Légende étant la dernière en date. Écrivain, donc, vous l'êtes, et vous l'étiez peut-être avant, vous l'êtes d'une quarantaine de livres, dont 16 romans à ce jour, des livres souvent récompensés, des récits aussi, des essais, des albums, sans compter les livres parus sous l'égide du 1, et puis il y a les chroniques à la radio, et puis maintenant les podcasts. Bref, vous êtes un écrivain journaliste prolifique. Est-ce que vous diriez que écrire, pour vous, c'est une façon de... Comme si vous couriez, comme si vous pédaliez, puisque vous êtes cycliste, après un temps à rattraper.
Oui, alors c'est peut-être pour ça aussi que je mets d'abord l'écrivain. Le journaliste, pour moi, est un métier qui me passionne, mais c'est mon métier. Pour moi, je distingue un peu le cœur et le centre. Le cœur de ma vie, c'est l'écriture. Le centre de ma vie, c'est mon métier. Mais je suis pas fort en géométrie pour savoir où se situe le cœur par rapport au centre. Mais le cœur, c'est ce qui bat depuis toujours. Depuis que je respire, depuis que je suis conscient au monde et conscient que le monde est flou autour de moi, l'écriture est venue là comme une sorte de secours immédiat. Et plus tard, le journalisme est venu pour précisément m'oublier moi, c'est-à-dire, comme dit Emmanuel Carrère, d'autres vies que la mienne, et j'ai foncé dans d'autres vies que la mienne pour précisément ne pas trop m'approcher longtemps de ce qui était une vie en pointillé dont je ne voyais pas les contours, qui était ma propre identité. Le journalisme, pour moi, ça m'a tellement ouvert les fenêtres par rapport à quelque chose qui était un peu rance, un peu étouffant, le sentiment de l'abandon, le sentiment de pas avoir sa place, d'être toujours déplacé par rapport à soi-même finalement. Et donc moi qui étais un enfant et un adolescent mais très timide, maladivement timide, c'est-à-dire que quand j'ai eu à la fac des exposés à faire, les premiers exposés, mes feuilles tremblaient, mes mains comme ça. Alors qu'aujourd'hui, je peux m'adresser à des auditoires sans difficulté. Donc, ce que je veux dire, c'est que je savais bien qu'il y avait quelque chose de bancal en moi et que, instinctivement, j'allais pas pouvoir résoudre ça tout de suite. Et donc, le journalisme, ça a été une manière de lutter contre moi-même, contre ma timidité, de m'adresser à d'autres personnes et de leur demander à elles ce qui leur arrivait. Et ça a évité de me le demander à moi.
Et les livres sont une manière incessante de se chercher, de chercher qui vous êtes, de chercher votre place. De fait, vous vous racontez beaucoup, Éric Fotorino, dans vos livres, que ce soit des romans qu'on pourrait qualifier d'autobiographiques, comme le premier, Rochelle. Paru en 1991, comme Korsakov, paru en 2004, même le dernier en date, paru en 2025, Des gens sensibles, d'une certaine façon, il y a de l'autobiographie, et puis il y a les récits à la première personne où vous parlez de votre famille, même si les noms sont parfois changés. Vous parlez de votre père, vous parlez de votre mère. Il y a par exemple le couple 17 ans, paru en 2018, et Mon enfant, ma sœur, paru en 2023. Et puis il y a le trio, on pourrait dire comme ça, L'homme qui m'aimait tout bas, Question à mon père, Le marcheur de Fès. C'est pour cette raison que je vous propose de consacrer les deux premiers épisodes de cette À voix nue au côté maternel et au côté paternel, parce que l'histoire est à la fois complexe, bouleversante et très romanesque.
Oui.
Alors on va commencer en vous posant la question suivante. Est-ce que vous sauriez aujourd'hui, malgré tout, avec tous les livres que vous avez écrits autour de cette histoire, en quoi cette enfance vous a constitué? Cette enfance dont vous dites qu'elle est faite de mensonges, de douleurs, de silences, d'absence, de fantômes, de manques, dont vous dites vous-même, je suis née avec un chagrin d'enfant. En quoi vous a-t-elle constituée ?
Je pense que, d'abord, enfant, j'étais pas tellement conscient. Vous savez, c'est bizarre de se dire j'ai eu une douleur sans souffrir. Parce que probablement que je souffrais, mais je m'en rendais pas vraiment compte. Je me souviens de cet épisode de ma vie quand je suis adolescent, j'ai 17 ans, et ma mère me dit toujours il faut lire, donc moi je lis très peu. Et je tombe sur un recueil qu'elle a dans sa bibliothèque d'Henri Michaud qui s'appelle Équador. J'ai jamais lu de poésie, sauf à l'école, où on les apprend par cœur, les fables de La Fontaine. Et je tombe sur ce poème qui s'appelle « Je suis né troué ». J'ai un petit trou dans la poitrine et il souffle un vent terrible. Et là, je me suis mis à pleurer. Et ces larmes m'ont mis en colère. Enfin, il y a eu quelque chose en moi, comme une sorte d'ébranlement intérieur que je ne comprenais pas. Pourquoi ce petit trou dans la poitrine me faisait pleurer ? J'ai refermé le livre et évidemment, je ne l'ai pas rouvert avant très très longtemps après. Le temps a passé. J'ai fait ce métier de journaliste, mais je savais que, implicitement ou intuitivement que j'avais un rendez-vous à un moment donné avec ce trou. Parce qu'il s'était élargi avec le temps. Ce petit trou par la poitrine, il devenait presque un gouffre. Et un gouffre, vous disparaissez à l'intérieur, sauf si vous trouvez le moyen de ne pas y tomber. Et finalement, je peux le dire comme ça, a posteriori, je crois que ces livres, ces nombreux livres, comme vous l'avez dit, sont un peu comme un fil tendu au-dessus du gouffre, comme le fil de l'écriture, en fait. Et du funambule qui hésite, mais qui risque tellement de tomber que... Et je me suis équilibré peut-être livre après livre, et j'ai compris ce qu'avait été mon enfance. Et ce que je pense parfois, je comprends ma vie en l'écrivant. Non pas que j'ai envie de raconter ma vie, je pense que ça ne m'intéresse pas moi-même, mais d'essayer de recourir à la fiction, c'est-à-dire à « il était une fois », quelque chose qui n'est pas la vérité. Au sens où on l'entend, en plus encore, a fortiori au sens où un journaliste l'entend, les faits, le réel. Prendre une fiction et en faire une vérité. Et je pense que inconsciemment, des Rochelles que vous avez rappelé en 1991, où j'invente cette histoire un peu abracadabrante d'une vieille ville et d'un jeune homme, et la ville qui perd son identité à mesure que la mère se retire et que la mère ne revient pas. Bon, la mère qui ne revient pas. Et ce jeune homme qui cherche à travers ces vieux murs, ce vieux port, qui il est, il y a déjà, de façon très maladroite, c'est un premier roman, François Truffaut disait des films, les premiers films sont toujours pleins de défauts, mais c'est une respiration. J'ai pu respirer en écrivant ce premier texte, avec l'idée que c'était fini, que j'aurais raconté ça. Et je ne savais pas finalement, et ça je l'ai compris plus tard, que écrire était une immense liberté qui se paierait pour moi d'une immense servitude, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, il y a 16 romans. Alors que je pensais un peu naïvement qu'une fois que j'aurais raconté ce roman, Rochelle, et ben voilà, j'aurais mis au clair, et je n'ai rien mis au clair du tout.
Alors, vous avez dit qu'il y a aussi la fiction et puis les faits, le réel, le romancier et le journaliste. Là, on va essayer de rester sur les faits, quand même, pour essayer de comprendre d'où vous venez, Éric Fotorino. D'ailleurs, vous n'êtes pas né Fotorino.
Oui, ça, c'est la première énigme et les premiers mystères. Donc, je m'appelais Éric Chabrerie, du nom de ma mère, de ma grand-mère.
Né le 29 août 1960 26, à Nice. Oui,
le 26
août 1960
voilà, à Nice. Donc les premiers mots qui concernent ma vie, c'est un mensonge. Non pas 26 août 1960 à Nice, ça c'est un fait, mais de père inconnu. Ceux qui écrivent ce document, tous savent qui est le père. Mais moi qui suis le premier concerné, donc mon premier papier d'identité est un faux, de mon point de vue. Et donc si vous voulez, tous les livres qui sont venus... C'était comme si, n'ayant pas eu les quelques mots vrais que j'aurais mérités, non pas à ma naissance, mais au moment où je suis conscient de qui je peux être, j'ai été condamné, ou je me suis condamné, à en écrire des dizaines de milliers. Et ça, vous voyez, longtemps ça m'a paru comme une sorte d'injustice, de me dire, mais pourquoi on ne m'a pas dit la vérité ? Pourquoi on ne m'a pas dit que j'avais un père ? On m'a dit qu'il était mort à la guerre, mais quelle guerre ? né en 1960, c'était pas la guerre d'Algérie, c'était pas la guerre de 45 ou alors de 39-45, ou alors ma mère aurait eu une gestation de 8 éléphants. Donc on m'avait menti. Et j'avais pas de père. À la sortie de l'école, il y avait pas de père. Dans la salle de bain, il y avait pas de rasoir. À l'entrée, il y avait pas de godasse d'homme. J'ai dû forcer la vérité pour qu'on me dise finalement un jour, ah oui, mais il était sympa. D'ailleurs, c'était un médecin. Enfin, il faisait des études de médecine. Il était marocain. Il était juif. Alors, marocain, juif, pour moi, c'est deux inconnus aussi. Et on m'a pas dit son nom tout de suite. Quand j'ai appris son nom, après, j'ai été évidemment intrigué parce qu'il s'appelait Maman. Enfin, le docteur Maman. Et donc, si vous voulez, cette enfance de, qui ressemble un peu à, vous savez, Fabrice à Waterloo. Il voit la Waterloo, mais il sait pas que c'est Waterloo. Kundera a dit ça dans L'Art du roman. On traverse la réalité les yeux bandés. Je crois voir quelque chose, mais je ne sais pas ce que je vois. Et donc, je crois que je suis le fils de ma mère et de personne d'autre, et que finalement, non, pas du tout.
Vous êtes le fils d'une mère très jeune. En l'occurrence, elle vous a eu à 17 ans. Elle était mineure à l'époque. Et vous avez été élevé par votre mère et une grand-mère qui a une importance considérable, cette grand-mère. Bon, c'est difficile parce que là, je prends parti, mais vraiment, tel qu'on vous lit, en tout cas, Éric Fautoréno, horrible femme. Vous écrivez « maîtresse-femme aux manières sèches, d'un abord austère, une bonne sœur sans soutane », comme disait votre mère, qui régnait sans partage et décidait de tout. Cette grand-mère maternelle est celle qui a décidé que vous n'auriez pas de père, oui. Qui a fait que votre père... devenu gynécologue obstétricien, mais n'a pas eu le droit de vous voir. Et j'ajoute, c'est cette grand-mère qui, alors que vous n'avez pas 5 jours, décide de vous placer en nourrice contre la volonté de votre mère, oui. Mais qui était mineure, sous sa coupe. Et vous écrivez dans 17 ans, vous adressez à votre mère. Ta mère a tout prévu. D'un geste énergique, elle a soulevé mon couffin. Elle me donne à cette étrangère qui fait le métier de nourrice. Je serai son 4e pensionnaire. Elle m'arrache à toi, elle t'arrache à moi, c'est fini. Tu as envie de mourir, tu insultes ta mère, tu insultes Paul, ce faux frère. Tu tentes de les poursuivre dans la rue, mais sitôt debout, tu vomis sur le trottoir. Paul t'a traîné au-dessus du caniveau, il ne faudrait pas salir les sièges de la belle auto. Il a appuyé sa main sur ta nuque, ses ongles durement plantés dans ton cou, puis il t'a poussé à l'arrière, tu as perdu connaissance. À ton réveil, dans votre réduit de Codéran, tu m'as cherché partout. Puis tu t'es souvenu. Tu as crié plus fort qu'à la maternité. C'est décidé. L'enfant du juif n'entrera pas ici. Tu ne seras pas une mère. Tu cries encore. C'est ce cri que j'entends depuis toujours.
Oui. Ben, vous voyez, en fait, je crois que j'écris pour pouvoir me taire. Et donc, c'est bien que vous lisiez ça, parce que moi, j'ai plus à le lire. J'ai plus à l'écrire. Ça y est, c'est là. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants qui commencent à vouloir lire des livres, des petites nièces, etc. Et j'ai écrit 11 versions de 17 ans.
Paru en 2018.
Ça a pris, oui, 2018. Ça a pris des années. Et quand je l'ai eu terminé, en fait, ce que je voulais dans ce texte, c'était comprendre ce regard de ma mère. Ça aurait pu s'appeler d'ailleurs le regard de ma mère, tout simplement. Mais 17 ans, c'était marquant, c'était une fille mère en 1960 qui avait 17 ans. Et donc cette violence qui s'exerce, non pas sur moi, moi je suis même pas conscient de ce qui arrive, mais sur elle, sur cette jeune femme, qui va se réexercer plus tard, on en parlera probablement, évidemment elle est constitutive d'une relation avortée.
Entre votre mère et vous.
Et oui, parce que finalement, quand vous savez, quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, la chronologie. Donc je suis né à Nice, mais c'est quasiment un faux aussi, parce que 5 jours après, je suis à Bordeaux, dans la banlieue bordelaise. Mais, vous savez, les enfants, il y a un moment précis où vous devez leur apprendre le langage. Si vous ne le prenez pas, c'est l'enfant sauvage, ils ne parleront jamais. Les sentiments, les émotions, c'est pareil. Ce lien entre une mère et un enfant, si vous le cassez au départ, même si vous essayez après de le rétablir, il arrive que des mères soient séparées de leur enfant parce qu'elles sont malades, ou ils sont malades, ils sont dans une couveuse, il y a une paroi de plastique, de verre qui les sépare. La relation est abîmée. Et moi, j'ai réalisé en écrivant, pas avant, en écrivant, au moment où, vous savez, c'est Aragon qui disait, je crois, quand on va au bal, il faut danser. Quand vous écrivez une histoire, il faut vraiment la raconter. Alors, c'était quand ? D'accord, 5 jours après, on te laisse. Mais alors, le premier visage de femme que j'ai vu, c'est pas celui de ma mère. La première voix que j'ai vraiment entendue et écoutée, jour après jour, pendant des mois, c'est pas la voix de ma mère. Donc après, pourquoi j'ai écrit 17 ans ? Parce que il y avait une sorte de... C'était comme si mon sentiment pour elle était congelé. Comme s'il y avait quelque chose qui existait, mais que je ne pouvais pas attraper, que je ne pouvais pas exprimer. Et voilà. Et donc, effectivement, ça a été une... Écrire a été une manière de, peut-être, sinon de faire fondre cette banquise, mais en tout cas de l'attaquer.
D'ailleurs, sur la couverture de 17 ans en édition poche, c'est une photo de vous petit, on vous reconnaît.
Oui, oui, j'ai des cheveux quand même.
Tout petit. Et c'est votre mère ?
Oui.
Votre mère vous regarde avec un sourire d'une immense tendresse. Vous regardez l'objectif. Entre vous deux, vous avez la main, le coude posé sur son épaule. Et puis, entre vous, il y a des roses. Voilà, c'est ce livre qui est fait, qui raconte l'histoire d'un enfant qui court après l'amour de sa mère.
Oui.
Qui lui a été caché, qui lui a été volé. Elle est quand même venue vous chercher quelques mois après,
mais
votre mère, malgré sa propre mère.
Elle m'a volé.
Elle vous a récupéré.
Exactement. Si vous voulez, plus tard, moi, quand j'ai commencé vraiment à devenir un lecteur, je suis tombé sur Modiano, les rues des boutiques obscures, je suis tombé sur Romain Gary, La promesse de l'aube, quand on a connu un amour maternel tellement brûlant, on est condamné toute sa vie à manger froid. Moi, c'était un peu l'inverse. C'était, non pas qu'il n'y avait pas d'amour, mais il y avait comme une opacité dans le lien, ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai vraiment interrogé cette réalité. Est-ce que cette femme est ma mère? C'est-à-dire que, imaginez que nous avons vécu à Bordeaux, sous les toits d'un immeuble, elle et moi, et ma grand-mère, et un oncle qui ensuite s'est suicidé, parce qu'il était homosexuel, et à l'époque l'homosexualité pouvait être vécue comme un drame personnel. Nous vivions, ma mère et moi, dans une même chambre, comme si on était frères et sœurs. Et nous avons eu des maladies d'enfants ensemble. Donc, pour moi...
D'ailleurs, votre grand-mère disait, va voir ta sœur.
Oui, exactement. Et du coup, ce lien entre ma mère et moi était un lien complexe parce qu'il ne correspondait pas aux critères, aux canons naturels, j'allais dire, de ce qui doit se faire entre un enfant et sa mère.
Et progressivement, Eric Fotorino, vous avez appris, d'ailleurs grâce à l'écriture, comme vous le dites, à porter un regard... peut-être plus compréhensif. D'abord, vous avez compris ce qui s'était passé. Vous avez compris qu'elle ne vous avait pas abandonné.
C'est ça.
Qu'elle avait dû.
C'est-à-dire que pour moi, il y avait une sorte de syndrome de double abandon. C'est-à-dire un père absent. Mais un père absent, ça veut dire qu'il ne vous a pas trouvé suffisamment bien pour être présent. Je n'étais pas au courant. Je suis l'enfant d'une guerre de religion entre un juif et une catholique dans une société très corsetée où l'église catholique à Bordeaux avait vraiment une emprise très forte sur des femmes comme ma grand-mère.
Au point, écrivez-vous, que c'est votre grand-mère qui a décidé de votre prénom Eric, un prénom anti-parasite pour repousser le juif, écrivez-vous.
Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que elle n'a pas vu que Eric, si on renverse les lettres, ça fait crier. Voilà. Et moi, je me suis mis... Et l'écriture, pour moi, a été un secours ou un recours extraordinaire parce que, précisément, je pouvais crier sans faire de bruit. Je pouvais écrire. Et le paradoxe de tout ça, ma vie, il y a beaucoup de paradoxes, mais cette grand-mère que j'ai énormément aimée, qui s'est laissée aimer par moi, et qui avait aussi beaucoup de qualités, elle était institutrice supérieure. Après l'école, j'allais dans son cagibi, où elle avait un petit bureau, ça sentait les livres neufs, les livres scolaires. Elle m'a appris toutes les conjugaisons avec les terminaisons en rouge, en bleu, en vert, selon les verbes irréguliers, etc. Je ne faisais aucune faute d'orthographe. J'ai jamais fait de faute d'orthographe, ou très peu, parce que elle m'a appris à écrire. Donc, elle ne pouvait pas... Jamais elle n'a lu un de mes livres. Elle est morte 2 ans avant la parution de mon premier livre. Donc, si elle savait ce que j'ai fait de l'art d'écrire qu'elle m'a appris, d'écrire juste, comme on dit, hein, j'accorde un instrument et je joue juste, c'est terrible ce que j'ai écrit pour elle.
Alors, il y a une autre absente, en l'occurrence, dans cette vie qui a été la vôtre, Eric Fotorino, et qui a fait l'objet d'un livre, là aussi, c'est une sœur. que vous décrivez. D'ailleurs, 17 ans, votre livre commence par ce jour où votre mère a convoqué ses enfants pour leur apprendre qu'ils avaient une petite sœur, née le 10 janvier 1963. Petite fille que l'on voit en couverture du livre de poche de Mon enfant, ma sœur, paru en 2023, qui est un long poème en prose dans lequel vous écrivez « J'avais les cheveux blancs quand m'a saisi la nouvelle de ta naissance, brasillement lointain d'étoiles mortes, écho assourdi d'un drame nimbé d'oubli. Maman voulait à mon épaule accrocher son fardeau, chaque jour davantage lui pesait de te savoir quelque part, mais nulle part, mais n'importe où. J'ai eu une fille, on me l'a prise. »
Oui, c'est... Alors, vous imaginez le séisme qu'a pu représenter pour moi et pour nous, mes frères et moi, lorsque, en 2017, ma mère nous apprend qu'elle a eu cet enfant qui lui a été pris aussitôt. Elle avait 20 ans, donc c'était 3 ans après ma naissance. Et cet enfant lui a été arraché dans une institution religieuse à Bordeaux, toujours les soutanes et les cornettes. Et elle nous dit ça, elle a déjà 75 ans. Et c'est vraiment ce que j'ai écrit, un tremblement de mer. La regarder parler, ça a été quelque chose de terriblement bouleversant et même traumatisant, parce que je voyais cette détresse avec un tel différé. Et vous savez, et y compris pour un romancier, peut-être d'abord pour un romancier, c'est un défi à l'imaginaire invraisemblable. Vous dites, on vous parle d'un enfant qui est né, mais cet enfant est né en 1963, donc vous ne pouvez même plus imaginer un bébé, vous n'imaginez même pas une petite fille, vous imaginez une femme qui a quasiment votre âge, donc qui avait déjà une soixantaine d'années, et surtout vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais juste l'adresse de cette institution à laquelle elle est née, et l'adresse, pour être plus légère, c'est 49 rue des Martyrs de la Résistance, donc à Bordeaux, mais une place d'ailleurs tout à fait charmante. Et donc, ce néant me ramène évidemment non seulement à la condition de ma mère, bien sûr, à cette époque, à la mienne aussi, puisque je dis à un moment donné, si, en m'adressant à cette sœur inconnue, dont je pense qu'elle est destinée à l'être à jamais, si tu avais été là, nous aurions été deux contre le chagrin. Et donc effectivement, j'avais le sentiment quelquefois d'être tellement seul face au désarroi de ma mère. Quelquefois, elle était tellement enjouée, tellement joyeuse. Et puis, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, comme le ciel change, ça devenait orageux, ça devenait distant, comme si tout d'un coup me regarder était quelque chose qui était pas un plaisir pour elle. Donc, et après, je me suis dit, mais peut-être qu'elle aurait préféré voir cette petite fille plutôt que moi. Je suis sûr que c'était pas le cas. Mais vous ne pouvez pas ne pas vous poser ces questions quand à un moment donné, un enfant a été choisi et un enfant a été abandonné. Et donc, ce faux dont je parlais tout à l'heure, ce faux de mon premier papier d'identité à Nice, ben, ça a continué toute notre vie. Les albums de famille sont faux. C'est-à-dire qu'il manque un fantôme. Il y a ce petit fantôme de cette petite fille. La cruauté a été telle pour ma mère qu'on lui a même pas posé sur le ventre quand elle est née. On lui a arraché.
Pourquoi on lui a arraché?
Parce que elle avait signé, tout en étant mineure, à 20 ans en 1963, des papiers où elle acceptait de l'abandon, évidemment à l'instigation de sa mère. Et donc, la cruauté de ces bonnes sœurs qui ne sont qu'amour, et pour le prochain, ça a été, cette femme avait fauté, était une Marie couche-toi là, et cet enfant, il fallait le sauver de l'enfer qui était le ventre de cette mère.
Alors, Eric Fotorino, le livre « Mon enfant, ma sœur », qui est donc ce long poème en prose, il est un peu constitué de deux temps. Il y a d'abord ce chant que vous adressez à une sœur que vous ne connaissez pas encore, et vous imaginez l'enfance à deux que vous auriez pu avoir. Et ensuite, c'est une enquête. C'est une quête et une enquête pour la retrouver. C'est et ça. Vous l'avez retrouvée.
Et je l'ai retrouvée, c'est miraculeux. Ben, c'est le miracle de l'écriture. C'est-à-dire que j'ai tiré un fil très ténu d'une institution qui n'était pas celle où elle était née, mais qui avait gardé quelques traces possibles. Et la personne qui s'occupait de cette institution avait lu mon livre 17 ans. Donc voilà, c'est parce que je parle de ce fantôme dans 17 ans que ce fantôme va finalement m'apparaître. Et vous voyez, vous parlez des deux petits folios où il y a 17 ans avec ma mère et moi, et mon enfant, ma sœur, avec Elisabeth, elle s'appelle Elisabeth, Et j'ai dit à ma mère, il y a quelques semaines, quand ce livre est arrivé, ben, tu vois, j'ai fait un regroupement familial littéraire, parce que ces deux photos que je peux rapprocher l'une de l'autre, c'est un anachronisme complet, puisque dans la vraie vie, elles n'ont jamais été la vérité. Et maintenant, par la littérature, par l'obstination des mots, creuser dans le silence, creuser dans le vide, ben, je l'ai rempli. Vous voyez, ce fameux gouffre qui m'avait fait peut-être pleurer du petit trou dans la poitrine quand j'avais 17 ans.
C'est un livre, Mon enfant, ma sœur. Vous avez échangé, vous êtes écrit. Alors, dans le livre, vous dites que vous avez organisé la rencontre entre vous trois. Vous écrivez, l'émotion manque de vocabulaire.
Et oui, quelquefois, la vie devient un roman. C'est-à-dire que quand je l'ai retrouvée, que j'ai été sûr que c'était elle, j'ai dit à mes frères, on va aller voir maman. Et je vais lui dire, je ne vais pas faire durer de suspense, ce sera tout de suite. Je vais lui dire en 30 secondes, tu as eu une petite fille, je l'ai retrouvée, elle va bien, elle te cherche. Elle t'a cherché, elle ne t'en veut pas. Donc j'ai fait une phrase qui dit tout ça. Et ma mère est restée interdite. Il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas eu... Bon. Elisabeth, elle est infirmière de nuit, c'est exactement le métier de ma mère. De nuit. Seule avec des malades la nuit. Le soin. On s'occupe pas de soi, on s'occupe des autres. Ma mère a vraiment donné sa vie aux soins. Et cette fille qu'elle a eue, Elisabeth, pareil. Elisabeth est à Montauban, ma mère est à La Rochelle, moi je suis à Paris, on va prendre chacun un train. Et ce train, il va nous amener les uns et les autres à Bordeaux. Et on se retrouvera à telle heure à Bordeaux. Ce jour-là, ce matin-là, c'est le 15 décembre 2021, il y a du brouillard partout. Depuis Montparnasse, je vois que du brouillard. Donc je mets un petit message à ma mère et à cette sœur que je vais découvrir. Brouillard et vous. Brouillard. C'est nos vies. Que du brouillard. Et à 20 km de Bordeaux, le brouillard se déchire subitement. Et un ciel, mais bleu comme on n'imagine pas, sans un nuage, sans rien. D'abord, j'arrive le premier, je voulais un peu maîtriser ce qui est immaîtrisable, c'est-à-dire les émotions et les sentiments, mais je voulais maîtriser au moins un peu le temps. Donc j'arrive le premier, et je reconnais une demi-heure après Elisabeth, qui est très grande, plus grande que moi, et ma mère, elle arrive en dernier. Et donc nous sommes à la sortie de la gare de Bordeaux, derrière les tramways, les pavés brillent, les rails brillent, tout brille, c'est très beau. Et tout d'un coup, ma mère m'appelle, elle me dit « Je ne sais pas comment je sors de la gare. » Je dis « Maman, tu es sortie des centaines de fois dans ta vie, peut-être des milliers de fois de la gare de Bordeaux. Tu vas au milieu du quai des voyageurs et puis tu sors. » Elle arrive et là, il y a quelques pas qui sont... Ma mère est toute petite et cette fille est très grande, elle ne l'a jamais vue. Et cette petite fille qui est sortie de son ventre en 63, qu'on lui a arrachée, elle voit une femme d'une soixantaine d'années qui est très présente et elle ne dit rien. Elle marche tout doucement et à un moment donné, elle fait un geste, c'est-à-dire elle lui tend la main et il pose sa main sur sa joue.
Et tout est dit. On a commencé, Eric Fottorino, avec ce livre, 17 ans, et avec le fait que votre mère vous a eu quand elle avait 17 ans. 17 ans, c'est aussi l'âge que vous aviez quand vous avez rencontré votre père.
Oui.
Alors, on dit biologique, vous vous dites plutôt père naturel, et c'est ce qu'on verra dans l'épisode suivant, l'épisode 2, né troué, mais avec deux pères. Merci beaucoup et à demain.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Eric Fottorino, réalisation Anne Fleury, prise de son Olivia Branger, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.